Très bon dimanche, vous écoutez Beurre FM, il est midi.
Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon et Émilie Avril sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche. Mon invité aujourd'hui a un cursus hors norme, il s'appelle Philippe Bonne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes d'accord avec ça? Vous avez un cursus un peu hors norme?
Ben, c'est très subjectif comme question. J'ai un cursus africain et de brousse, alors oui, hors norme probablement.
Bon, vous publiez un livre qui s'appelle « Profession agent d'influence », sous-titré « Business Élysée Afrique, les aventures d'un homme de l'ombre » aux éditions Plomb. Avant, les hommes de l'ombre y restaient.
Dans l'ombre.
Ouais. Et depuis quelques années, alors par exemple, on le voit avec les plumes de chefs d'État. Alors maintenant, ils disent tous qu'ils ont été plumes d'eux. Et les hommes de l'ombre, eux aussi, sortent de l'ombre. Vous voyez, les ancêtres, les Jacques Faucard, tout ça était dans l'ombre, ils y restaient.
Oui, alors d'abord, je ne me qualifierais pas d'homme de l'ombre. Ça, c'est l'approche marketing des éditeurs, sans doute. Mais simplement, on peut être caché dans la lumière du contre-jour.
Homme de réseau, ça vous va mieux?
Oui, mais tout est réseau dans la vie. Internet, c'est du réseau. Le réseau des grandes écoles, les réseaux neuronaux, tout est réseau. Le réseau, c'est la vie. Donc oui, homme de réseau.
Surnommé le monsieur Afrique d'Airbus, vous êtes aujourd'hui le directeur général d'Air Sénégal. Est-ce que vous êtes d'accord si on dit que votre livre, c'est l'histoire d'un constructeur de décision?
Absolument. C'est d'ailleurs, au départ, c'était véritablement l'idée. Je voulais faire un que sais-je. Et mon idée, c'était d'expliquer comment on construit de la décision. Il y a des ingénieurs qui construisent des routes, des ingénieurs qui construisent des ponts, des avions. Moi, je suis un ingénieur de l'humain, comme je dis. Et mon métier, c'est de construire de la décision, en effet.
C'est même un métier artisanal. Et c'est ce qu'on voit dans votre livre. Un métier de l'artisanal et de l'humain.
Oui, c'est la technologie, et c'est véritablement l'objet du livre, c'est la technologie du réseau d'influence. Parce que le réseau, c'est simplement un outil, comment on le construit, comment on l'utilise, comment on le met au service d'une entreprise pour un projet industriel, pour un projet commercial, ça, c'est valable aussi en politique, pourquoi pas, bien sûr. Mais une fois encore, l'humain, c'est de la technologie, c'est une science, les sciences humaines, et c'est pour ça qu'au départ, on devait l'appeler les ingénieurs de l'humain, d'ailleurs.
Et en tout cas, c'est réussi. Pour moi, c'est un livre de stratégie que, enfin, en tout cas, je conseille à tous ceux qui envisagent de construire des réseaux de le lire. Vous avez découvert, vous, très tôt, et sans l'avoir conceptualisé, l'utilité d'un réseau. Vous aviez 10 ans.
Oui, parce que quand on est pensionnaire dans un microcosme, comme chacun sait, pour ceux qui sont allés en pension, c'est pas toujours simple. Alors, on est toujours un peu en mode survie. Et donc, faut tisser son réseau, hein, les potes, les copains, les clans. C'est la vie elle-même. C'est rien de neuf, finalement. Simplement, comme beaucoup de gens, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, chacun d'entre nous fait du réseau. Simplement, voilà, j'ai voulu le conceptualiser, l'expliquer, et parfois même l'enseigner, d'ailleurs.
Bon, il y a 10 ans, vous vous appuyez sur qui, sur votre réseau? Vous aviez déjà le nez creux, faut le dire. Vous aviez un radar.
Bah, d'abord, sur les potes, parce que l'amitié, pour moi, c'est important. Et puis... Et puis, plus on est nombreux et plus on est fort dans un réseau. Et plus on a la capacité de réunir un ensemble de gens, un puzzle de gens pour faire le chemin et plus facile la route.
Bon, ça, c'est quand vous avez 10 ans. Ensuite, alors vous devenez, je sais pas, parce que vous n'arriviez pas à faire de grandes études, vous devenez photographe un peu par hasard.
Par hasard, oui et non. J'ai commencé à travailler assez tôt. Enfin, je poursuivais mes études. Mais comme il fallait que je paye mes vacances, ben, j'ai commencé à travailler comme assistant photographe dès la troisième. Vous voyez, alors j'ai eu la chance d'ailleurs...
14-15 ans, quoi.
Ouais. Oui, de travailler avec des grands de la photographie. Je pense à Frank Horvat, à Edmund Newton, enfin des gens comme ça. Et puis, voilà, les choses s'enchaînent petit à petit, mais j'ai commencé à travailler assez jeune, tout en poursuivant... mes modestes études.
Oui, mais les choses s'enchaînent, mais pas forcément. Finalement, on est dans les années 80. Vous croisez Thierry Ardisson à l'époque. Vous êtes dans les coulisses des émissions de Thierry Ardisson, qui sont pour toute une génération culte aujourd'hui.
Oui, alors c'était pas des émissions à l'époque, c'était les reportages qu'il faisait, voilà, dans Rock'n'Folk, Descente de police. Thierry Ardisson a été un des précurseurs avec Jean-Luc Maître, si j'ai bonne mémoire. Il faisait des interviews un peu trash et c'est vrai que ça a été un des précurseurs. Moi, j'étais simplement l'assistant du photographe, mais j'étais en seconde ou en, je sais plus, enfin bref, c'est il y a fort longtemps.
Comment est-ce que l'assistant du photographe arrive en Afrique? Parce que là, vous avez toute une période pipo, donc vous y passez vite dessus. Alors quand même, c'est elle est magique. Hein, c'est ces années pétillantes des années 80 se retrouvent dans la brousse.
Alors, il y a des parcours où parfois, comme disait Oscar Wilde, il n'y a pas de questions indiscrètes, il n'y a que les réponses qui parfois le sont. Et donc, de fil en aiguille, disons que je me suis retrouvé à faire du reportage de guerre dans des pays complexes.
Mmh. C'est pas comme ça. Alors, d'abord, ça commence par une encyclopédie.
Oui, absolument. J'ai eu
Alors, ça commence par une encyclopédie. Comme quoi, l'encyclopédie mène à tout.
N'est-ce pas ? À condition d'en sortir. C'était le grand dictionnaire encyclopédique de la Côte d'Ivoire. Un ouvrage que Offouet de Boigny avait souhaité publier, co-publié d'ailleurs, Berger Levrault et les éditions, les nouvelles éditions africaines de mémoire. Et moi, j'étais l'assistant du photographe qui illustrait une partie de cette encyclopédie, et ce qui m'a permis de faire plus de 30 000 kilomètres dans le pays, ce qui est quand même beaucoup. Quand on connaît la Côte d'Ivoire, faut rouler. Hein.
Donc vous quittez Castel et le 5 et 6e arrondissement de Paris, vous vous retrouvez dans la brousse. Qu'est-ce qui fait que c'était plus intéressant ce que vous trouvez en Afrique à ce moment-là que sur la rive gauche de la capitale parisienne?
En dépit du fait que, comme tout un chacun, j'aime les filles de chez Castel, n'est-ce pas? Pour autant, j'ai toujours été beaucoup plus attiré par la brousse et l'état sauvage.
Ouais. Expliquez-nous ça, parce que finalement, vous vous retrouvez là. Parce que cette passion africaine, ça va faire le gros de votre carrière, on va dire. Et vous êtes devenu, je mets entre guillemets, le carnet d'adresse de l'Afrique.
Oui, je sais ce que je dois à ce continent. J'y ai rencontré des personnes qui ont effectivement marqué très profondément tout mon parcours et pour qui j'ai un immense respect. Peut-être parce que j'aime les cultures. J'aime les nations, les peuples qui ont des cultures, qui les défendent et qui en sont fiers. Parce que j'aime cet échange. Et donc, c'est vrai que c'est un continent sur lequel j'ai beaucoup travaillé, sur lequel je travaille encore. J'ai des amis très, très importants. Et comme je calcule pas grand-chose, moi, je vais là où mes amitiés et mon cœur me guident. C'est comme ça que je travaille.
Celui qui vous ouvre les portes de l'Afrique, c'est Jonas Savimbi.
Ah, Jonas Savimbi, oui. Un grand combattant de la liberté. C'était l'époque des luttes anticommunistes, hein, l'époque Est-Ouest. Il faut recontextualiser. À l'époque, il y a encore le mur de Berlin. Et grosso modo, les puissances occidentales soutiennent discrètement ce combattant de la liberté, les Air Reagan. Oui, ça a été pour moi un des grands leaders du continent, un combattant déterminé et en même temps un grand humaniste, quand on le connaissait bien.
Mmh. Vous arrivez en Afrique, c'est la fin des années 80. Pour ceux qui nous écoutent, finalement, il n'y a pas de téléphone portable à l'époque. C'est-à-dire que déjà, il faut s'imaginer que il n'y a pas d'internet. Communiquer, c'est pas du tout la même vitesse qu'aujourd'hui.
Non, pas du tout. C'est très clair. Quand on est en brousse, on est en brousse. Et à part la radio onde courte pour écouter vos confrères de RFI qui ont bercé mes voyages ou tout ce qu'on arrivait à capter difficilement au fond de la brousse, oui, non, c'est d'ailleurs pour ça qu'on tombe amoureux aussi. C'est mon côté écolo, les grands espaces.
Vous vous souvenez de votre première rencontre avec Jonas Savimbi? Vous saviez qui c'était, ce qu'il représentait?
Oui, bien sûr. Je savais ce qu'il était, je savais qui il était, je savais qui il représentait. Et paradoxalement, la première fois que je l'ai rencontré, ce n'était pas en Angola, puisque j'étais déjà allé dans le maquis.
C'était à Rabat.
Mais c'était à Rabat, au Maroc, et c'est la première fois qu'il m'a reçu.
Et qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là?
Bah, d'abord, il écoute parce que c'est un, comme tous les grands leaders, avant de parler, il écoute ce que les petits bons hommes comme moi ont à lui dire. Et donc,
mais qu'est-ce que vous aviez à lui dire, vous, finalement?
Des tas de choses à échanger, à lui proposer, à voir comment on pouvait contribuer à renforcer justement son réseau d'influence. J'appartenais aussi à une famille politique qui souhaitait...
Le Parti Républicain, donc.
Oui,
de François Léotard.
De Gérard Longuet, d'Alain Madelin, absolument. Qui...
La bande à Léo.
C'était les libéraux qui soutenaient tous ces combattants de la liberté, oui.
Et donc, il vous envoie d'une certaine façon en mission.
D'une certaine façon. Et c'est vrai que Jonas Savimbi était un personnage... qui, comment dire, c'est un sujet très complexe. On a beaucoup caricaturé, on disait, voilà, l'UNITA, c'est le monde libre, les Occidentaux contre le bloc communiste. Et quand on voit, par exemple, le soutien que l'Afrique du Sud apportait, que l'ANC, parti au pouvoir en Afrique du Sud, apportait à l'époque au MPLA, la dictature communiste en place à Luanda, en fait, c'était plus complexe que ça. Au sein de l'ANC, il y avait des personnages, y compris comme Nelson Mandela, qui a reçu Savimbi dans son village natal, à une époque, où le président Thabo Mbeki, qui était beaucoup plus équilibré sur leur approche de ce que représentait l'UNITA, qui pour eux était un véritable parti panafricain de libération. Et il y avait aussi là des communautés fraternelles, non pas surprenantes quand on connaît vraiment le fond des dossiers, mais intéressantes à mettre en lumière.
C'est le sujet de votre livre. Alors, essayez de nous faire comprendre comment vous, au moment où vous le rencontrez, finalement, vous allez tisser cette relation de confiance avec lui, une relation de confiance que vous allez tisser avec beaucoup d'autres personnes dans le monde. Comment vous faites à ce moment-là? Et comment il arrive à vous faire confiance? Alors qu'il ne vous connaît pas.
Bien sûr, mais d'abord, on est dans un contexte global où si j'arrive devant lui, ce n'est pas complètement par hasard, d'une part. Et d'autre part, j'ai sans doute, comme tout un chacun, beaucoup de défauts, mais je pense que j'ai une qualité, c'est celle de la fidélité à mes amitiés et la force de mes engagements. Et ça, ça ne se discute pas, ça ne se calcule pas, ça se reconnaît.
Mais ce que vous expliquez, c'est qu'un homme de réseau, finalement... Il y a beaucoup de maillons au réseau. Comment est-ce qu'on peut avoir tellement de fidélité? Est-ce que ça veut dire que ce sont des fidélités qui sont multiples?
Non.
Et des engagements qui sont multiples? Et est-ce qu'on est forcément obligé d'adhérer aux gens qu'on va rencontrer?
Alors, je crois que la base de cette activité, par exemple, si on parle de la technologie du réseau d'influence, pour y
c'est
revenir...
C'est le cœur de l'histoire de votre livre.
C'est le cœur de l'histoire.
Il faut vraiment comprendre ça.
Absolument. C'est une technologie, c'est un métier, ça s'apprend et ça se développe. Comme chaque métier que l'on pratique, la radio, la télévision, être un ingénieur de qualité, être un grand commerçant, si on n'aime pas ce qu'on fait, si on n'a pas d'empathie vis-à-vis de l'autre, en tout cas pour cette partie du métier, on peut pas le faire. Donc bien évidemment, on a tous une inclinaison au départ de ce qu'on aime faire. Et quand on aime faire les choses, on essaye de les faire bien. Le réseau, c'est un mot qui parfois a une connotation péjorative, alors qu'une fois encore, il n'est que l'interaction entre chaque individu. Quand on aime les gens, on est déjà prédisposé ensuite travailler de façon, j'allais dire, dans le cadre de process qu'on peut décrire, et c'est une fois de plus encore l'objet du livre, et c'est ça le fond. Mais il faut une base, et cette base...
Donc à la base, vous ne trichez pas,
il faut aimer les
vous
gens.
Êtes empathique et vous aimez tout le monde.
À la base, je suis quelqu'un qui fait confiance. Et par exemple, en tant que manager, je dirige des entreprises, parfois, ça me crée des déboires, parce que quand on fait confiance, on est parfois trahi ou parfois déçu. Mais par contre, ça donne de grandes forces, parce que ça permet de construire des équipes très, très soudées, très cohérentes, et avec lesquelles on peut travailler de façon efficace. Dans
vous
un
êtes souvent trahi que,
comme tout un chacun, ça peut arriver, mais dans l'ensemble, j'ai toujours eu la chance d'avoir...
Vos radars fonctionnent bien.
Oui, dans l'ensemble, ça va.
Bien.
Dans l'ensemble, ça va.
Restez avec nous jusqu'à 13h, Philippe Bonnet, notre invité. Jusqu'à 13h, nous feuilletons aujourd'hui Profession d'un agent d'influence aux éditions Plomb.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon et Émilie Avril sur Beurre FM.
Et Philippe Bonnet est l'invité du Book Club aujourd'hui, profession agent d'influence aux éditions Plomb Business, Élysée Afrique, les aventures d'un homme de l'ombre. Quand j'ai lu votre livre, j'ai pensé à une chanson de Luc Plamondon et de Michel Berger.
Je chante faux, alors là vous allez me poser une colle.
Le blues du businessman.
Le blues du businessman.
Ouais.
Mais
à un moment donné, il dit quand il s'envole, j'aurais voulu être un artiste.
Ah oui, oui, enfin, absolument. Ça y est, j'y suis.
C'est celui qui est dans tous les Hilton de la Terre. Je ne vais pas vous demander un petit peu votre conceptualisation de la valise parfaite. Mais ça s'apprend à faire une valise de cabine.
C'est une obsession permanente. On cherche toujours à optimiser. Moi, j'ai trois obsessions qui sont la bonne paire de chaussures pour crapahuter en brousse, la parka idéale et la valise qui permet d'en mettre le maximum sans être obligé de l'engager et de la mettre en soute en avion. Voilà, ça, c'est une obsession permanente.
On a combien de vies dans la vie ?
Moi, je suis plutôt zen, donc on a une vie éternelle à chaque instant.
Mmh. Vous auriez été bon dans n'importe quoi, finalement. Vous auriez été bon comédien, bon animateur de radio, bon tout, quoi.
Bon à rien, peut-être, surtout. Mais en tout cas, j'essaye de faire bien ce que j'aime, ce qui est assez facile, finalement.
Quel était votre titre quand Alfred Sirven vous embauche chez Elf, puisque vous aviez une mission qui était de bâtir un réseau d'influence dans une zone ou un pays donné? Qu'est-ce qu'il y avait sur votre feuille de paye?
Je crois que j'étais conseiller pour les affaires internationales du président. Je devais formellement être rattaché à un monsieur que je tiens d'ailleurs à saluer, parce que pour moi c'était un des grands présidents, à Loïc Le Floch-Prigent, qui était le président de Elf à l'époque. On oublie trop souvent que c'est un immense industriel qui a fait la fortune de cette entreprise.
Le Floch, comme on disait.
Oui, je ferme la parenthèse. Et je rapportais effectivement à Alfred Sirven. La mission était particulière, elle consistait grosso modo, ça a été dit d'ailleurs dans une belle émission, Une Afrique sous influence, d'Arte il y a des années. La mission était quand même grosso modo de gérer les relations, disons, avec les mouvements d'opposition partout où Elf avait des installations potentiellement à risque.
Et dans cette émission, on disait qu'il y avait quelqu'un de spécial qui s'occupait de ces affaires, et c'est à cette occasion-là que vous sortez de l'ombre, puisque finalement vous voyez votre rôle officialisé.
À mon corps défendant, n'est-ce pas? Mais dans ces cas-là, il faut faire avec.
Oui, mais... Et c'est ça qui est important, parce que vous expliquez ce que... Alors, on appelle ça comment? Des diplomaties parallèles, des...
Oui, alors c'est un point de vue... De mon point de vue, elle n'est pas parallèle, parce qu'elle est directe et quotidienne. Parallèle, oui, c'est le monde de l'entreprise. Ne séparons pas tout. Enfin, séparons les choses. Elle fait une entreprise, je travaille pour une entreprise, certes publique au départ, qui est un des plus grands pétroliers français. Donc, ça ne prétend pas en aucune manière faire de la diplomatie au sens Quai d'Orsay du terme.
Sauf qu'à l'époque, on vous dit, Elf, c'est la France. C'est ce qu'on vous dit à l'époque.
C'est ce qu'on me dit. Oui.
Vous voyez, donc
c'est ce qui se dit.
Qu'est-ce que vous arriviez à obtenir que, par exemple, quelqu'un du Quai d'Orsay ne pourrait pas obtenir? Quelle est votre valeur ajoutée en tant que agent d'influence, homme de réseau?
Je fais partie de ces gens qu'on envoie au fond de la brousse et dans des endroits où tout le monde n'a pas forcément envie d'aller et qui, par définition, n'existant pas, ne sont en aucune manière reconnus qu'une sorte, de quelque façon que cela soit. Donc on fait le boulot, et puis voilà. Il n'y a pas d'enjeu, personne ne revendique quoi que ce soit. On accomplit une mission, on l'amène à bien, personne ne le sait, personne n'en parle. Ça n'existe pas, par définition.
Et vous dites quelque chose d'intéressant, c'est que finalement, ça ne sert à rien de croire qu'on a été important si les choses se font, de croire qu'on a eu un rôle.
On est toujours un maillon dans une chaîne, et j'allais dire tous les maillons sont essentiels et aucun n'est indispensable.
Vous dites que vous devenez l'outil d'un décideur sans jamais vous mettre en avant. C'est ça la qualité finalement d'un bon agent d'influence, c'est quelqu'un qui sait s'effacer finalement devant son boss.
Absolument. Une fois encore, je pense, j'ai peut-être tous les défauts de la terre, mais je reste à ma place. Moi, je suis, voilà, c'est la bonne définition, un outil dans la boîte à outils du décideur. Et c'est comme ça qu'on arrive probablement le mieux à participer, comme le fait un outil, à la construction de la décision. Mais il faut savoir rester un outil. Moi, j'ai jamais eu aucune autre prétention que d'être un outil performant. J'essaye d'être l'outil préféré ou le meilleur outil de la boîte, mais je suis dans la boîte du décideur.
Mais c'est quoi votre récompense au final? Si vous n'en avez pas la reconnaissance, si vous n'avez pas la paternité de quelque chose qui fonctionne, vous tournez à quoi?
Alors, je tourne, mais j'ai un luxe énorme, inouï. C'est-à-dire que comme j'ai une empathie et que mon seul luxe, c'est que je décide avec qui je travaille. Et donc, en général, ce sont des gens que j'aime, pour lesquels j'ai de l'estime, du respect, pour lesquels j'ai plaisir à m'engager. Donc oui, le travail est dur. Quand on fait de l'industrie, le travail est dur. Quand on construit une entreprise, le travail est dur. Quand on construit un process de décision pour une action commerciale ou peu importe. Mais quand on le fait avec des gens qu'on aime bien et pour qui on a envie de s'engager, c'est facile et c'est un vrai luxe. Le plaisir de l'engagement.
Mais il n'y a pas que ça. Il y a quoi ?
C'est vraiment le moteur essentiel. Alors, bon, j'ai toujours travaillé dans des grands groupes ou construit des entreprises qui m'ont permis de bien gagner ma vie, c'est très clair. Bon, mais c'est pas le moteur.
Vivendi, Airbus, voilà, des grosses...
Mais je reste un employé d'une entreprise. Que je la dirige, que j'appartienne au groupe des dirigeants ou que je sois un cadre moyen au fur et à mesure des différentes carrières. Mais ça reste un outil. Je reste un outil.
Vous évoquez dans votre livre quasiment que des histoires qui se finissent bien et dans lesquelles vous avez le beau rôle. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'histoires où ça se finit moins bien ?
Ah bah il y a toujours des histoires d'échecs, bien évidemment. Et d'ailleurs, j'envisage de faire des...
Il n'y a pas beaucoup d'échecs dans votre livre. Là, je vois que quasiment que de succès, on va dire.
Si, il y a des échecs. Le premier, le chapitre le plus important... pour moi, pour sentimentalement, c'est ce soutien et cet engagement avec Jonas Savimbi qui est mort au combat.
Et donc, qui va vous ouvrir les portes, qui va vous apprendre le métier et qui va vous apprendre l'Afrique et qui va vous donner votre carte de visite africaine.
Bien sûr, mais puisqu'on parlait d'échecs...
Vous avez été approché après parce que justement, vous le connaissiez bien.
Ce que je veux dire, c'est que c'est un échec en ce sens que nous n'avons pas réussi à renverser la dictature communiste qui était aux affaires et qui l'est d'ailleurs toujours en Angola, même si elle a évolué, bien sûr. Et donc, si, c'est un échec, mais c'est très relatif. C'est un échec au sens de l'aboutissement du process, mais c'est un succès parce que la qualité de l'engagement et le respect, comme vous l'avez souligné, les portes que ça ouvre derrière, en font d'une manière différente une forme de succès.
Mmh. Vous disiez que vous étiez empathique, mais quand on veut construire un réseau, quelle est la part de spontanéité et quelle est la part de... de réfléchir, finalement.
De réfléchir, bien sûr. Alors, il y a une part de réfléchir. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un schéma dans l'un des chapitres du livre, parce que je travaille sur un process. Une fois encore, si on revient sur le strict aspect professionnel, comme construire une entreprise, construire un réseau qui a pour objet de faire prendre une décision à un décideur, ce que j'appelle le décideur ultime, eh bien, c'est un process. C'est un process qui est lié aux sciences humaines. Je ne suis pas l'inventeur des sciences humaines, mais c'est pour ça qu'on peut le mettre en process, c'est pour ça qu'on peut l'enseigner, c'est pour ça qu'on peut l'apprendre, c'est pour ça qu'on peut le dessiner. Donc, bien évidemment, il y a une partie de travail précis, certains diront de calcul, mais toute relation
calcul,
humaine.
Vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire finalement, je vais être sympa avec toi parce que tu peux me servir ou tu vas me rapporter quelque chose. C'est là qu'il y a le calcul.
On peut le traduire de cette manière, bien évidemment. Ceci étant dit, dans toute relation humaine, quelle qu'elle soit, relation amoureuse, relation amicale, il y a toujours un échange. Mmh. Et quand on dit échange, en mathématiques, ça veut dire calcul. C'est simplement, qu'est-ce qu'on met derrière ces mots ? Ils ne sont pas péjoratifs, ils sont la vie elle-même. La vie est un échange. Quand on fait de l'interaction entre nous, il y a une forme de calcul. Quand vous argumentez avec quelqu'un avec qui vous dialoguez, vous donnez un argument, il reçoit cet argument. Il y a un échange et il y a un calcul. Je donne un argument parce que je calcule que la réaction que je vais avoir en face va être X, Y ou Z. Donc, simplement, c'est la constatation factuelle de ce qu'est la relation humaine en général.
Mmh. Donc, c'est un calcul, on va dire, plus ou moins calculé.
Oui, mais c'est pas péjoratif.
C'est ça qu'il faut dire, c'est que c'est ni bien ni mal, ni péjoratif.
C'est un outil. Un outil, qu'est-ce que c'est ? Un outil, un réseau, c'est comme un marteau. Un marteau, c'est bien si vous l'utilisez pour planter un clou et accrocher votre tableau. Si vous l'utilisez pour fracasser le crâne du voisin, c'est moins bien. L'outil est neutre, il n'est ni bon ni mauvais, il est ce qu'on en fait. Le réseau, la façon d'appréhender le réseau, c'est ni bien ni mal, c'est ce qu'on en fait, comment on le construit, comment on l'utilise, avec quel objectif et de quelle manière.
Vous aviez une stratégie définie pour approcher Kadhafi ?
Oui.
Est-ce que le fait d'approcher d'abord ses fils, c'était dans votre stratégie, par exemple ?
Oui, oui. Oui, au départ, bien sûr. Au départ, on a fait, la façon dont je travaille est très simple. Hein. Une fois qu'on a identifié le décideur ultime, je m'emploie à faire le mapping, la cartographie de l'environnement de ce décideur et de tous les paramètres qui contribuent à construire sa décision, sa vision du monde. Une fois encore, c'est dans le schéma là, un des derniers chapitres du livre. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce mapping, eh bien, je mets les ressources humaines dans mes équipes en face de chacun des éléments qui doivent être traités pour accéder au décideur ultime.
C'est ce qu'on appelle une équipe miroir.
Absolument.
C'est quoi une équipe miroir, pour ceux qui nous écoutent ?
Eh bien, une équipe miroir, ça consiste par exemple à considérer que, un chef d'état-major qui serait le décideur ultime, il a un certain nombre de ses collaborateurs, à certains grades, il peut avoir des éléments personnels qui contribuent à construire sa décision, et l'idée c'est de mettre en miroir, dans mes équipes, chaque personne qui va traiter des éléments identifiés de ce tissu, de ce puzzle, de ce réseau d'influence. C'est ce que j'enseigne.
Mmh. Et vous expliquez que vous finissez par rencontrer Kadhafi. Vous y allez alors avec le petit livre vert traduit en français.
Ça
c'est de la stratégie.
Ça, c'est un métier.
Ça, c'est du métier, oui. Faut le trouver, hein.
Ah, je dois dire que j'ai fait un peu travailler un de mes collaborateurs, qui était toujours un homme de grande qualité, qui tenait notre bureau à Tripoli. Et je lui dis, on va voir le guide, il faut venir avec le livre vert. Alors, il m'apporte une version dans un langage que je comprenais peu. Je lui dis, non, attends.
Il croira jamais que je l'ai lu.
Et je lui ai donné le challenge, je lui ai dit, tu vas me trouver le livre vert en français et usagé. Et il m'a trouvé le livre en vert en français et usagé. Et j'avais évidemment lu quand même quelques extraits. Et comme je suis un hégélien, j'ai fait une lecture hégélienne du livre vert au guide, qui était, je dois dire, un homme qui savait avoir de l'humour, était, je pense, assez épaté. Il m'a fait une très belle dédicace, d'ailleurs.
Que vous avez toujours dans votre bibliothèque.
Que j'ai toujours dans ma bibliothèque.
Qu'est-ce qui vous a mis en dédicace, Kadhafi ?
Oh, ben, je ne l'ai plus en mémoire.
Bon, mais c'est dans votre livre.
C'était en
mémoire. Ah oui, Donnez-vous du mal.
Oui,
c'était très banal.
C'était très banal. En hommage à...
C'était pas à mon ami Philippe, mais c'était,
oui,
c'était pas loin.
C'était en hommage, voilà, et en marque de respectueuse.
Deuxième stratégie, vous ne lui demandez rien.
Ah, ben, ça, oui, je ne demande rien. C'est sûr.
C'est ce qui fait ma force. C'est une visite sèche.
Mais bien sûr.
Voilà.
Mais bien sûr. C'est ça, c'est l'idée. Et d'ailleurs, c'est ce qui a toujours fait ma force. Moi, je demande rien, donc je n'attends rien. Et l'avantage, c'est que dans ces cas-là, on est dans la plus forte position de négociation qui soit.
Et là, il vous confie une mission secrète, soi-disant.
Oui. Oui. Oui, il vous laisse réconcilier à l'époque. C'est l'époque où Kadhafi voulait être le roi des rois. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là.
Le roi d'Afrique, déjà, il voulait être...
Le roi des rois traditionnel, voilà, en fait. Ouais. Hein. Et c'est vrai qu'à l'époque, le président en exercice de l'Union africaine se trouve être le président sud-africain, Thabo Mbeki, qui est un homme extrêmement sérieux, rationnel, rigoureux.
Ils étaient un peu fâchés.
Bah, disons que je pense que le président Mbeki considérait le guide... Brother leader, comme il l'appelait, comme certes sympathique, mais parfois un peu farfelu. Et donc l'idée était quand même de les remettre autour d'une table, ce que j'ai pu faire.
Voilà. Et vous vous êtes effacé.
Ah oui, absolument, absolument.
Philippe Bonne ne trahit pas de secrets, mais en tout cas nous ouvre son livre de secrets, Profession agent d'influence, Business Élysée Afrique, les aventures d'un homme de l'ombre, qui est avec nous jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Le Book Club revient dans un instant.